Nous vous invitons à écouter le 7e épisode de notre feuilleton Papillon de peine de Maurice Thibert. Jérémy et Roland, les deux prêtres, vivant au quartier des Trois Misères, entament leur premier jour commun. D'entrée de relation, Jérémy est passé aux confidences et, à cette heure, il prépare le petit déjeuner. De l'autre côté de la cloison, une toux convulsive se chamaillait avec le tintement d'ustensiles de cuisine. Pendant les accalmies, Jérémy parlait haut. Ses mots étaient confus, il parlait seul, comme on le fait parfois devant une glace qui accueille et vous retourne vos grimaces quand, pour tout interlocuteur, vous n'avez que vous-même et, pour tout entremetteur, que l'indigente honnêteté d'un miroir qui ne vous renvoie qu'à vous-même, qui remet chaque ride à sa place, qui rend à chaque défaut son dû et qui, négligemment, vous restitue content le ridicule, plus la monnaie de singe. Un dernier coup de peigne, toujours l'arrêt à gauche, et Roland rejoignit Jérémy.
Ici, c'est la cuisine et la salle à manger, tout à la fois. Une salle polyvalente. Je n'ai pas grand-chose pour le petit déjeuner, seulement de la tisane. D'innombrables plantes médicinales poussent en effet autour des Trois Misères.
Roland se souvint alors qu'il avait fait l'achat d'un café soluble la veille. Il sortit la boîte du sac, à provision, et la déposa sur la table.
Tu réveilles ma gourmandise, Roland. Cela fait quelques jours que je n'ai pas bu du café.
Il vida la tisane dans un pot de terre, tira de l'eau d'un seau et la mit à chauffer.
Je crains de ne t'avoir ôté tout courage avec mes paroles tout à l'heure. Les mots ne se bousculent pas sur tes lèvres. En ce qui me concerne, j'éprouvais le besoin de dire mes fanfaronnades. Il est toujours plus facile de porter à deux les vides de l'être ou ses débordements. Parler d'échecs surtout n'est pas chose aisée. Je ne me suis jamais résolu à en faire part en haut lieu. Peut-être ai-je trop d'amour-propre. Ou ces barrières sont-elles trop difficiles à franchir? Aujourd'hui, il est temps. Je me rends compte que Dieu seul est indispensable. Et je me sens, du coup, plus libre de ma personne. Il y a moins d'encombrement en moi. Dieu doit s'y trouver plus à l'aise.
Son regard à nouveau se chercha un support. Roland se leva pour ramasser les deux bols sur la table et déroba ses yeux. À ce moment, lui revenaient les spectres de la nuit précédente et ses peurs. Autant chez Jérémy, la sérénité était comme un oiseau sur la branche, autant la pesanteur chez Roland était comme entrave à la barque et à la haute mer. Pourtant, viendrait le jour il l'espérait, où Jérémie percevrait le flux et le reflux de ses peurs. Mais à cet instant, les mains faisaient défaut à son courage. Il était trop tôt et Roland avait besoin du soir et de la nuit pour pousser du genou ou du pied les confidences.
As-tu bien dormi sur ce lit d'infortune ?
Oui.
Aux trois misères, la nuit a un landau et y promène les enfants du silence. Tu n'y entendras que peu de hurlements. Les chiens y sont mal nourris, squelettiques. Ils ne s'épuisent pas à clabauder. Ils gardent leur force pour errer à la quête de leur subsistance. Mes nuits sont partagées. Une part au sommeil, et l'autre, celle où le mal sournois m'agite, je la passe à deviser avec le grand silencieux.
Le grand silencieux ?
Ah oui. J'oubliais que tu accostes une saison déboisée d'habitude. Un univers sans flétrissure artificielle. Un jardin sans eau. Un visage aux yeux fixes, poreux. Un cœur qui n'est pas d'Amadou, mais qui, au secret, nourrit un trop d'astres et d'espoir. Pourquoi me regardes-tu ainsi ?
J'avoue que je ne comprends pas très bien.
Tu t'y feras. Nous avons jeté bas les phrases embourgeoisées qui caracolent. Ici, la vie ne donne pas un carrousel. L'amitié, l'affection, y suivent leur cours. Comme partout. Nous cultivons les aurores comme d'autres chassent les papillons. Ils ont usé l'amour par leurs belles paroles et ne nous ont jamais offert que des chimères. Les mots sont mal utilisés, ont perdu leur sang et sont désormais enlisés dans les tourbières du mensonge. Nous ne pouvions parler comme eux. Alors nous attrapons les mots à rebrousse-poil, comme la vie.
Et le grand silencieux ?
C'est Dieu. Il ne parle pas pour ne rien dire. Mais il a d'autres noms. Et si tu écoutais Maria, il te dirait qu'elle l'a vue en colère, comme dans le grand livre.
Fado !
Hé, Fado !
Ouais, j'arrive !
L'homme, qui sortit sur le pas de la porte, n'était pas de grande taille. Sa tête énorme supportait une casquette rétrécie qui, vaille que vaille, tentait de remplir son office. Des tics se bousculaient sur son visage, s'entrechoquaient et se noyaient aux angles de ses rides. Il avait une figure burinée comme ceux qui, avec la mer, sont en palabre quotidienne ou qui, échinés par les lames et par l'âge, les yeux ancrés au large, vous content l'histoire de bancs de poissons et de filets rompus. Fado, par l'entremise de ses tics, changeait à tout moment de masque. La proue de son navire passait de l'hilarité à l'épouvante. Sur sa face déambulaient des sentiments discordants.
Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qui a besoin de quoi, cette fois ?
Il parlait comme en cours, ou comme s'il craignait, en brisant le fil de ses pensées, que ses mots décrochés ne s'égarent sur des voies de garage.
Pourquoi t'excites-tu ainsi, Fado ? Tu as des humeurs de flagrant délit. Que faisais-tu ?
Une convulsion s'empara d'une de ses épaules, parcourut le dos de sa personne qui se dandina. La convulsion flatta de la main son cou de bœuf et s'aventura jusqu'à l'autre épaule d'où elle dut plonger pour disparaître. Un chien, probablement celui du Fado, se jeta hors de la baraque. Il s'ébroua et s'assit sur son arrière-train. Pris de mimétisme, il se contorsionnait comme son maître. Ce chien rassemblait plusieurs races. Bilboquet, c'était son nom, partageait les peines et les espoirs de Fado, en recevait les confidences et la sympathie qui le liait au petit homme. Agitait ses oreilles de haut en bas. Un ralentissement dans les pensées de Fado provoqua chez lui un léger bégaiement. Jérémy, d'autorité, entra dans la cabane.
Viens, Roland.
Roland pénétra à son tour.
Que faisais-tu ?
Le petit homme ouvrit une porte qui donnait sur le fond de sa demeure. Il y avait d'innombrables tuyaux, tout un attirail d'alchimistes et un foyer qui donnait sa pleine mesure.
Je parie que tu es revenu à tes souvenirs pour faire cet alambic.
Et tu distilles. Fado avait pris sa casquette entre ses mains et la faisait tourner. Il baissait les yeux comme un enfant surpris à chaparder des confitures.
Il marche. Tu veux goûter ?
Non.
Les grimaces se contredirent sur la face de Fado. Le père ajouta :
Je ne suis pas venu pour te couvrir de reproches, ni te fustiger avec des paroles aussi noueuses qu'un fouet. Je n'ai plus assez de vitalité pour ça. Je suis là simplement pour te présenter Roland. Il est des nôtres à partir d'aujourd'hui.
Je sais. La faiseuse de songes me l'a dit.
Au dehors, Roland interrogea Jérémy.
Qui est cette faiseuse de songes ?
C'est une vieille femme qui se terre chez elle. Elle est de noir vêtue. Certaines mauvaises langues disent que la mort lui emboîte le pas. Sa maison ne vit que par les rideaux qu'elle entr'ouvre. Des gens viennent la voir de loin. On dit qu'elle tire des cartes les joies ou les malheurs de demain. Elle vend surtout des illusions, des frissons de passage et l'écume des jours. Tu n'auras sans doute que peu de rapport avec elle, elle n'y tient pas. Elle dit de Dieu qu'il est le charlatan par excellence.
« Pour poursuivre la connaissance des habitants du quartier des Trois Misères, nous vous invitons à écouter demain le 8e épisode de notre feuilleton « Papillon de peine » de Maurice Thibert. Thank you.